RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, il est 7h, info week-end, c'est avec vous, Lana Colombo.
La réforme de la TGC est jugée insuffisante par Bercy et l'État ne versera pas à la Calédonie la troisième tranche de 9 milliards de francs. À l'international, trois nouveaux otages du Hamas, dont un franco-israélien, devraient être libérés cette nuit pour nous. Un échange sera effectué contre 90 détenus palestiniens. En métropole, le Rassemblement national décidera lundi s'il censurera ou non le gouvernement Bayrou. Le risque est réel malgré l'adoption du budget de l'État en commission mixte paritaire cette nuit pour nous. Sur le territoire, une météo capricieuse, mais pas de dépression tropicale forte à l'horizon ce week-end. Toutefois, la côte Est et les îles Loyauté pourraient être en proie à de fortes pluies ce dimanche. Enfin, le sport, du rugby à la une, le tournoi des Six Nations débute aujourd'hui. Le premier match opposera le 15 de France au Pays de Galles. La rencontre se dispute à Paris. Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal Info Weekend pour tout connaître de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une sur le territoire, le chômage au cœur d'une réunion hier entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il s'agissait de faire le point sur l'évolution des dispositifs de chômage partiel et de droit commun et sur leur indemnisation. Et on a appris à cette occasion que l'État ne verserait pas la dernière tranche de 9 milliards de son prêt à la Nouvelle-Calédonie, Léo Fichou.
Et cette information a fait un peu l'effet d'une douche froide. C'est lors d'une visioconférence que l'État a fait savoir au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu'il ne verserait pas effectivement la dernière tranche de 9 milliards de son prêt. En cause, la réforme de la TGC adoptée récemment par les élus du Congrès, une réforme jugée insuffisante par Bercy. Ce non-versement est une mauvaise nouvelle, reconnaît Christopher Gigès, membre du gouvernement.
C'est une mauvaise nouvelle. L'État a considéré que la réforme de la TGC n'était pas assez volontariste pour que les 9 milliards soient versés, mais ils ont versé le reste des 27 milliards qui a permis de financer les collectivités. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est dans une logique vraiment de reprise de l'activité économique, d'un dialogue exigeant avec l'État. Et on sait que l'État sera à nos côtés, et on l'espère bien, pour financer les restes des collectivités, les dispositifs de chômage.
Le gouvernement reste en effet optimiste, car l'État s'est engagé à accompagner la Nouvelle-Calédonie pour ne pas la mettre en difficulté. Même si les 9 milliards n'étaient pas versés, mais cette annonce renforce les inquiétudes autour des dispositifs de chômage. Pendant plus d'une heure, Thierry Santa, en charge du budget et des finances, et Christopher Gigès, donc en charge du travail et de l'emploi, ont fait le point avec les partenaires sociaux. Ils ont dressé un état des lieux chiffré de la situation. Depuis la mise en place du chômage spécial exaction, 22 650 Calédoniens ont bénéficié du chômage partiel et 1848 salariés du chômage total. En organisant cette réunion, le gouvernement avait une volonté de transparence, souligne Christopher Gigès.
On avait vraiment un désir de transparence vis-à-vis des partenaires sociaux et vis-à-vis des Calédoniens sur la situation du chômage et du chômage partiel. Il faut qu'on trouve des solutions ensemble. On va trouver des solutions, comme on l'a fait ces derniers mois. On a travaillé avec l'État encore il y a quelques jours pour assurer le financement du chômage et du chômage partiel. Et on travaille avec les partenaires sociaux sur l'évolution des dispositifs.
Les représentants de la CAFAT et de nombreux partenaires sociaux participaient à cette réunion. Un échange jugé positif par Christophe Coulson, président de l'UTCFE-CGC.
Pour l'instant, oui, positif. Après, on a quand même beaucoup insisté sur la réactivité. Il ne fallait pas qu'on prenne des plombes pour traiter tous ces sujets. Il fallait se mettre au travail sur des discussions concernant principalement aujourd'hui les dispositifs de chômage, mais après, d'une manière plus large, travailler sur des propositions qui pourraient faire évoluer très rapidement le monde du travail et relancer l'économie de la Nouvelle-Calédonie.
Les partenaires sociaux et les membres du gouvernement doivent se revoir dans les prochains jours pour avancer sur les discussions et mettre en place un partenariat.
Et notez que Calédonie Ensemble a réagi dans un communiqué à la nouvelle concernant la dernière tranche de 9 milliards d'aides qui ne sera pas versée par l'État. Philippe Gomez se questionne et demande si, je cite, « l'État est devenu fou ». Il dénonce la méthode de communication du gouvernement, évoquant, je cite encore, « du mépris à l'égard des Français de seconde zone que nous sommes ». Philippe Gomez conclut en pointant du doigt la suppression des allocations de rentrée scolaire par la province sud qui, selon lui, est une punition collective du fait des exactions des émeutiers de la CCAT et de l'incurie de l'État à nourrir le dialogue politique et à maintenir l'ordre. Fin de citation. À la une à l'international, le franco-israélien Ofer Calderon fait bien partie des trois otages du Hamas qui doivent être libérés cette nuit pour nous à Gaza. Les trois otages sont des hommes. En échange, l'État hébreu va libérer 90 prisonniers, dont 9 purgent des peines à perpétuité et 81 des peines de longue durée. Alors, comment va se passer cette nouvelle libération et que sait-on des otages ? Élément de réponse avec Frédéric Simon, envoyé spécial à Tel Aviv pour Europe 1.
Eh bien, le plus âgé d'entre eux, Keith Siegel, est un Israélo-Américain de 65 ans avec Gadi Moses, âgé lui de 80 ans et libéré hier. Il était l'un des captifs les plus âgés. Deux autres octogénaires sont encore en détention et les autorités israéliennes ne savent toujours pas s'ils ont survécu à leur longue période de captivité. Le franco-israélien Ofer Calderon, 54 ans, sera lui aussi libéré demain. Le 7 octobre 2023, il avait été capturé avec deux de ses enfants, relâchés eux une cinquantaine de jours plus tard dans le cadre du premier accord de cessez-le-feu. Troisième otage dont la libération a été annoncée, Yarden Bimas, israélien âgé de 35 ans. Le sort de son épouse, Shiri, et de leurs deux enfants, Kfir et Ariel, bouleverse tout Israël. Les frères Bimas, respectivement âgés de 10 mois et de 4 ans lorsqu'ils avaient été kidnappés, sont les plus jeunes des captifs. Récemment, le porte-parole de l'armée israélienne a évoqué les vives inquiétudes des autorités concernant Kfir, Ariel et leur mère.
Selon les dernières informations, il n'y aurait pas en principe de mouvement de foule similaire à celui qui avait fortement perturbé hier la libération de 7 otages dans le sud de la bande de Gaza. À la une en métropole, une étape de franchie pour François Bayrou pour le budget. Après 14 heures d'examen, la quinzaine de parlementaires réunis pour la commission mixte paritaire s'est mise d'accord. Une copie commune du budget a été adoptée à 8 voix contre 6. Mais la route vers une adoption du budget est encore longue et les risques de censure sont toujours là. Mayalène Trémollet pour Europe 1.
François Bayrou le sait, il devra très probablement saisir l'article 49.3 de la Constitution pour passer en force lundi lors de la présentation du budget à l'Assemblée nationale. Un 49.3 qui entraînerait immédiatement le dépôt d'une motion de censure. Tout se joue désormais du côté du Rassemblement national et des socialistes qui regrettent des avancées insuffisantes sur le budget. Patrick Kanner, chef de file des sénateurs PS.
Nous restons dans l'opposition. Nous ne sommes pas là pour beurrer les tartines du gouvernement. Nous sommes des interlocuteurs crédibles. Nous avons pris toutes nos responsabilités.
Il faut dire que toutes les taxes supplémentaires proposées par le parti à la rose ont été refusées en commission, qu'une quinzaine de députés socialistes sont déjà décidés à voter une censure après l'emploi par François Bayrou du terme submersion migratoire. À cela s'ajoute la menace du Rassemblement national qui exige du gouvernement qu'il renonce à l'article 4 sur la hausse des prix de l'électricité. Pour rappel, il suffit de 25 députés socialistes alliés aux voix du NFP et du RN pour obtenir une majorité et faire tomber le Premier ministre dès la semaine prochaine.
Mayalène Trémollet pour Europe 1.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier. À l'unanimité, les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que François Bayrou a eu raison d'employer la formule submersion migratoire. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. En métropole toujours, la tombe de Jean-Marie Le Pen vandalisée la nuit dernière à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Tombe dégradée à coups de massue, la croix celtique a été cassée et une enquête a été ouverte pour violation de sépulture. Mathis Lang revient pour Europe 1 sur le déroulé des faits et l'étendue des dégâts.
Eh bien, les faits se sont déroulés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. D'après les informations recueillies par Europe 1, c'est la brigade de Carnac qui a été appelée par la police municipale. Les gendarmes se sont rendus sur place pour constater la profanation en milieu de matinée. Les dégâts sont importants. Une masse aurait servi à dégrader le tombeau familial. Gilles Penel, conseiller régional et eurodéputé RN, a été prévenu ce matin par un habitant.
La grande croix qui était sur la tombe s'est fracassée en plusieurs morceaux, abîmant la tombe, ainsi que toutes les plaques portant le nom des membres de la famille de Jean-Marie Le Pen. Les fleurs étaient bien évidemment dispersées. Et je peux vous dire que les nombreux coups de téléphone que j'ai, c'est des gens qui sont véritablement choqués.
Le cimetière a été fermé pour laisser place aux premières investigations avant de rouvrir dans l'après-midi. Une bâche a été placée également au-dessus de la tombe. Ce soir, il n'y a aucune information sur l'identité des auteurs. Une enquête a été ouverte pour violation de sépulture, tombeau, urne funéraire ou monument édifié à la mémoire des morts. Elle est menée par la section de recherche de Lorient.
Sur les réseaux sociaux, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, fait part de son indignation. Il a dénoncé, je cite, « un acte inqualifiable commis par ceux qui ne respectent ni les vivants ni les morts ». Fin de citation. Il est 7h10, première pause dans ce journal avant de revenir à l'actualité sur le territoire. A tout de suite.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite info week-end, Léana Colombo.
En bref, réouverture complète en vue pour la route de Saint-Louis. Les restrictions d'horaire mises en place dans cette zone au Mont-d'Or seront supprimées dès le lundi 10 février. Annonce faite hier par le Haut Commissariat. La voie traversant la tribu était bloquée au nord et au sud depuis le 20 juillet 2024 par deux verrous établis par la gendarmerie. En bref, toujours, le Haut Commissariat annonce dans un arrêté que la vente au détail et le transport de carburant est interdit dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 10 février inclus. Cette mesure de police administrative concerne toutes les communes en province sud. Et justement, l'ordre public est vraiment rétabli et la situation est totalement sous contrôle. C'est ce que déclare le haut-commissaire Louis Lefranc, qui était hier midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il a également assuré que les effectifs de forces de l'ordre étaient en nombre suffisant, avec des effectifs très supérieurs à ceux qui étaient présents au début des émeutes. Le haut-commissaire déclare avoir reçu l'assurance du ministre de l'Intérieur que des renforts seraient envoyés sous 72 heures si la situation le nécessité. Il parle de mesures de vigilance active. Un magazine Transparence qui sera rediffusé dans son intégralité demain soir, juste après notre édition de 17h45. Il est également disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Et ce matin, à partir de 11h, nous vous proposons la rediffusion du club politique de Radio Rythme Bleu. Au sommaire, ce qu'il faut retenir du 44e congrès du FLNKS et de sa délégation pour les discussions bilatérales. Les consultants du club se sont également interrogés sur ce qu'il faut attendre des discussions bilatérales qui débutent mardi à Paris. Et ils ont décrypté le rôle de l'Azerbaïdjan et les différentes réactions que suscitent les ingérences de ce pays. Un club politique que vous pouvez également retrouver en audio sur le site internet de RRB. Actualité politique, la délégation Unie Palika s'apprête à se rendre à Paris à l'invitation du Premier ministre pour prendre part aux discussions qui doivent s'ouvrir dans quelques jours. Elle est composée de Jean-Pierre Djaïwe, qui sera chef de la délégation, d'Adolphe Digoué et de Victor Tutugoro. Michael Gineski.
Oui, les membres de cette délégation se sont entretenus en visioconférence avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, il y a 10 jours, et ils ont reçu la lettre que leur a adressée le Premier ministre François Bayrou. Ils ont donc accepté de se rendre à Paris pour des discussions qui doivent aboutir à la définition d'une méthode et d'un calendrier, mais aussi pour identifier les points qui doivent faire l'objet d'une négociation. La délégation Unie Palika, nous a dit Jean-Pierre Djaïwe, s'inscrit dans la volonté exprimée par le Premier ministre de trouver un accord avec les partenaires calédoniens le 31 mars ou plus tard.
Oui, tout à fait. Nous sommes tout à fait d'accord pour qu'on aille discuter et lui parvenir à un accord dans la mesure du possible. Bah, il le dit lui-même, parce que si les discussions, parce que c'est d'abord des discussions bilatérales, là, et ensuite, en fonction des discussions bilatérales, on va avoir des discussions trilatérales avec le groupe de la table. C'est ce que nous souhaitons aussi, parce qu'il faut qu'on avance. Il faut négocier sur les points qui sont aujourd'hui des points durs, sur lesquels il y a des divergences. On a déjà eu des discussions entre nos partenaires galéniens et avec l'État, bien sûr, et on sait les points sur lesquels il y a beaucoup de divergences. Donc c'est sur ces points-là feront l'objet des négociations à venir.
L'Unie Palika, qui s'est mise en retrait du FLNKS, a préparé ce rendez-vous de son côté, mais Jean-Pierre Djaïwe affirme partager avec le Front le même point de départ pour ces discussions.
On est tous sur le point qui a été fait au congrès de Kaïmolo, où on a dit, dans le cadre des discussions avec les partenaires calédoniens et avec l'État. On sait précisément les sujets sur lesquels il y a des points d'équilibre qui ont été trouvés et on sait précisément également les points sur lesquels il y a des divergences majeures. Autre chose qui est importante qui a été dit par le ministre, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que le ministre a dit à un moment donné, il va falloir que l'État mette une proposition sur la table.
Pour l'instant, ce sont des discussions bilatérales qui vont s'ouvrir à Paris. Est-ce qu'éventuellement, si elles pouvaient déboucher sur une négociation plus large, vous seriez partant ou pour vous, il y a un retour nécessaire à Nouméa?
Oui, tout à fait. Nous, on est partant si on arrive à... Parce que le ministre le dit lui-même, si les discussions sont concluantes, il va lancer les négociations sur les points difficiles. Alors, est-ce qu'on va se faire à Paris si les discussions sont concluantes déjà dans cette première à Paris? Bien, est-ce que ça se fera un peu plus tard? Ben, il le dit lui-même, il veut que les accords soient trouvés avant le 31 mars. Il sait que les discussions vont être difficiles, mais il dit que le fait de ne prendre trop de temps, ça risque d'avoir des conséquences sur les élections provinciales prochaines.
Jean-Pierre Jaïway qui répondait à Jean-François Bodin. Il a quitté le territoire hier soir pour se rendre à Paris et sera rejoint dans quelques jours par Adolphe Dicouet et Victor Tutugoro.
Attention, car le ciel pourrait se couvrir ce dimanche. Un minimum dépressionnaire s'est formé au Vanuatu et pourrait descendre vers le territoire. Selon les scénarios de Météo France, la côte Est et les îles Loyauté pourraient être touchées par de fortes pluies. Nous avons fait le point avec Édouard Pellot, prévisionniste à Météo France.
Ça se gâte pour dimanche en lien avec un minimum dépressionnaire qui actuellement est en train de se former dans le nord du Vanuatu. Et qui devrait, parce qu'il y a encore pas mal d'incertitudes, mais bon, qui devrait se diriger vers le sud et donc se rapprocher du territoire, et apporter une dégradation du temps à partir de dimanche, donc, même si les prévisions le laissent encore un petit peu au nord du pays dimanche. Si c'est le scénario qu'on a choisi aujourd'hui qui se réalise, on aura beaucoup de pluie, donc essentiellement sur la façade est, comme souvent, et des vents qui devraient être limités à 45 nœuds en rafale, on va dire.
L'évolution de ce phénomène en dépression tropicale forte est pour l'instant exclue. Une vigilance jaune forte pluie pourrait être déclarée dans les zones plus exposées. Notez toutefois qu'en raison des conditions météorologiques défavorables de la semaine prochaine, les rotations du Betty Show des 3, 4 et 5 février sont annulées. À ce jour, la reprise des traversées reste incertaine et le programme sera réajusté en fonction de l'évolution de la météo des prochains jours. Tous les passagers impactés ont été informés par SMS ou par email. Également, la Sudil annonce une modification des horaires des trajets jusqu'à demain. En cause, un problème technique sur les moteurs du bateau. Les voyages prévus ce week-end ont dû être réadaptés mais sont maintenus. Exceptionnellement, le service client sera disponible par téléphone ce matin de 7h à midi au 260-100, le 260-100.
Vous écoutez Info Week-end, il est 7h17.
En bref, ouverture de la pêche aux crabes et picots à partir d'aujourd'hui. En province sud comme dans le nord, après 2 mois de pause en raison de la période de reproduction, il est de nouveau autorisé de pêcher les crabes de palétuvier et les picots. Leur pêche, leur transport, leur commercialisation, leur vente et leur détention est donc de nouveau possible. Par contre, cette autorisation ne concerne pas les crabes mous dont la taille est inférieure à 14 cm. Rappelons également que la pêche de picots rayés dont la longueur totale est inférieure à 20 cm est interdite pour tous. Dans l'actualité également, la Nouvelle-Calédonie renforce sa vigilance concernant la grippe aviaire après des signalements de cas en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Le gouvernement appelle les Calédoniens à signaler à la DAVAR tout événement anormal touchant des oiseaux. En parallèle, toute détention d'oiseaux, volailles ou autres doit être déclarée au CIVAP pour une meilleure protection et traçabilité. La grippe aviaire peut se transmettre de l'animal à l'homme. Des mesures de protection doivent donc être appliquées pour limiter les risques de propagation. Et notez enfin qu'en ce mois de février, les prix des carburants affichés à la pompe sont en augmentation. Le litre d'essence a augmenté de 1,30 francs pour atteindre 161,66 francs par litre. Le gazole est quant à lui désormais affiché à 142,10 francs, soit une augmentation de 70 centimes par litre.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
On fait maintenant le point sur les sorties de la fin de semaine avec un large choix d'activités à faire seul ou en famille, Léo Fichou.
Et l'événement du week-end, c'est le Tropical Market. Au Quai Ferry, 36 artisans locaux exposeront leurs créations en bord de mer. Rendez-vous aujourd'hui et demain de 9h à 17h. Non loin de là, c'est aussi l'incontournable vide-grenier du centre-ville qui reprend demain. Comme d'habitude, près de 250 stands accueilleront les brocanteurs de 7h30 à 12h30 et ça se passe bien évidemment sur la place des Cocotiers. Côté marché toujours, c'est à l'occasion de la réouverture de la pêche au crabe et picot, comme l'annonçait Léana Colombo il y a quelques instants, que la commune de Moindou organise son premier de l'année. Rendez-vous place du marché de 8h à 12h, ce sera demain pour découvrir un large choix de produits de la mer et de la terre.
Et puis les férus de nature trouveront leur compte ce week-end. De nombreuses sorties dans les parcs provinciaux sont organisées.
Avec tout d'abord un tout nouveau rendez-vous qui est proposé par le parc provincial zoologique forestier. Des visites guidées de la faune et de la flore endémique sont organisées aujourd'hui. L'occasion d'en apprendre plus sur la biodiversité locale. Les précisions de Lise Gavin, elle est médiatrice de l'environnement pour la province sud.
Nous proposons des visites guidées faune et flore. Une visite qui est assurée par notre volontaire service civique et qui dure 1h30. Donc à la découverte des beautés emblématiques de Nouvelle-Calédonie qu'on a ici au parc forestier. Donc le départ se fait au guichet pour terminer au vivarium. Donc c'est une petite promenade au cœur de la vallée des endémiques. Il y a 13 points d'intérêt, surtout le long du chemin, où on va parler des plantes et des animaux. Parce qu'il y a certaines choses qui sont quand même assez méconnues. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Hein. C'est pour les locaux ou pour les touristes qui seraient de passage, vraiment pour en apprendre le plus possible en un temps assez réduit.
Rendez-vous donc ce samedi et les suivants de 10h à 11h30. L'entrée du parc est payante, la visite, elle, gratuite. Pour avoir une chance d'apercevoir des cagous dans leur environnement naturel, cette fois, le parc des Grandes Fougères organise lui aussi des visites guidées gratuites. Le rendez-vous est donné en soirée à 19h. Attention, il vaut mieux prévoir de bonnes chaussures de marche et une lampe frontale. La réservation est obligatoire, elle se fait par téléphone au 20 39 55, le 20 39 55. Et puis demain, ce sont aussi les zones humides qui sont mises à l'honneur mondialement dès ce dimanche et tout au long du mois de février. Une exposition leur est dédiée au parc provincial de la Rivière Bleue.
Et enfin, on termine ce tour du week-end en musique avec le Ciné City qui organise une séance de karaoké sur le film Wicked. Rendez-vous ce soir à 17h15. En attendant, il est 7h22 et seconde pause dans ce journal avant de voir tout le sport.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information.
La suite d'info du week-end, c'est du sport, Léana Colombo.
Et à la une de l'actualité sportive du rugby, c'est parti pour le tournoi des 6 nations 2025.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi des 6 nations sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Le début de la compétition avec un duel entre le 15 de France et le Pays de Galles pour ouvrir le bal. Le match se dispute actuellement au Stade de France, Michael Gineski.
Exactement, les retrouvailles avec le tournoi pour les tricolores qui reçoivent donc les Gallois en ouverture de cette première journée. Le coup d'envoi a été donné il y a quelques minutes seulement dans un stade Saint-Denis à guichet fermé. 80 000 spectateurs qui donnent de la voix, principalement évidemment pour supporter les joueurs français sous la pluie parisienne. Le score est toujours donc de 0-0 après 5 minutes de jeu. Alors aujourd'hui, les Bleus comptent notamment dans leur rang les Calédoniens, Peato Mauvakaïora Moefana, mais surtout le capitaine Antoine Dupont associé à l'ouvreur Romain Ntamack. C'est le retour d'une charnière qui n'avait plus été utilisée depuis 17 mois, puisque Ntamack avait connu une blessure juste avant la Coupe du Monde de 2023. Également aligné aujourd'hui, Pierre-Louis Barassi pour sa deuxième titularisation seulement en bleu. C'est son quatrième match avec le 15 de France. Les tricolores qui ont à cœur d'entamer ce tournoi sur une bonne note face à une équipe galloise sur laquelle de nombreuses questions demeurent. Le Pays de Galles reste sur une série de 12 défaites d'affilée avec le sélectionneur Warren Gatland en sursis. Les Gallois avaient fini l'édition 2024 à la dernière place avec la cuillère en bois derrière l'Italie. 5 défaites de suite, là où les Bleus s'étaient hissés en deuxième position d'une compétition remportée par l'Irlande. Le Pays de Galles mené par le flanqueur Jack Morgan en capitaine, des anciens qui ont été rappelés, Liam Williams 33 ans, Josh Adams 29 ans pour défier aujourd'hui le 15 de France. Les Gallois qui espèrent un renouveau pour réapprendre à gagner. Le match France-Pays de Galles qui est donc en cours, le score pour le moment toujours de 0-0, encore 75 minutes à jouer au Stade de France, à une semaine également pour les Bleus du crunch face à l'Angleterre. Notez déjà que la nuit prochaine l'Écosse accueillera l'Italie, match à suivre à partir d'1h15 pour nous, puis demain matin un beau choc Irlande-Angleterre. Le coup d'envoi sera donné à 3h45 heure de Nouméa. Quant au tournoi des Six Nations des moins de 20 ans, il débutera aussi demain matin avec les Bleuets et le Calédonien Brent Liufau contre le Pays de Galles à partir de 7h10.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi des Six Nations sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Et on passe au reste du sport. Léo Fichot avec du tennis. L'équipe de France dispute la Coupe Davis ce week-end.
Les Bleus qui jouent à domicile à Orléans partent favoris face au Brésil. Une équipe de France composée d'Hugo Humbert, d'Arthur Fils, de Pierre Hugerbert, de Benjamin Bonzi et d'un petit nouveau, Giovanni Mpeti Péricard, qui est fier d'être le 97e tricolore sélectionné en équipe de France.
C'est vraiment plaisir, ouais, c'est une fierté. Représenter la France, avoir le numéro, le nom, c'est quelque chose. Quand on est petit, on regarde. Moi, j'ai beaucoup la veste quand, durant mes années en junior, mais là, l'avoir avec le nom, c'est une bonne fierté. Ouais, 97e, je me dis qu'il y en a eu beaucoup avant moi. C'est une bonne chose. Enfin, je suis jeune, j'ai fait ma première sélection. Voilà, je suis 97e, c'est comme ça, mais bon, c'est quelque chose de magique en tant que joueur de tennis.
Malheureusement pour lui, il ne devrait pas jouer ce premier tour de Coupe Davis. Le tirage au sort des matchs a eu lieu hier soir pour nous. Et c'est Hugo Humbert, le numéro 1 français, qui ouvrira le bal face à João Fonseca. Ce sera ce soir à 00h30. Dans la foulée, Arthur Fils sera opposé à Thiago Sebos Wild. Dans la nuit de dimanche à lundi, Benjamin Bonzi sera aligné en double aux côtés de Pierre Hugerbert. La paire française défiera Raphaël Matos et Marcelo Melo. Puis la quatrième rencontre, à nouveau en simple, sera Hugo Humbert contre Thiago Sebos Wild. Et enfin, pour l'ultime match, Arthur Fils pourrait à nouveau affronter le jeune João Fonseca.
À l'international, toujours, les Bleus et du handball tenteront de décrocher une médaille de bronze au championnat du monde.
Les joueurs de Guillaume Gilles se sont inclinés hier matin en demi-finale face à la Croatie. Une défaite 31-28 qui envoie les Bleus en petite finale contre soit le Danemark soit le Portugal. Les deux équipes s'affrontent actuellement. C'est la mi-temps et c'est le Danemark qui mène de 4 points. 4 buts d'avance pour le Danemark donc à la pause. La finale et la petite finale auront lieu dans la nuit de demain à lundi.
En métropole, on parle football avec la 20e journée de Ligue 1.
Montpellier-Lens, c'est la rencontre d'ouverture de cette 20e journée de championnat de France. La rencontre a démarré à 6h45 et ce sont les Lensois qui mènent 1-0. Ils ont ouvert le score dès la première minute de jeu. Depuis, le score n'a pas changé. La nuit prochaine, Brest accueillera le PSG. Monaco affrontera Auxerre et Lille sera opposé à Saint-Etienne. Dans la nuit de demain à lundi, 4 rencontres sont au programme. Toulouse-Nice, Angers-Le Havre, Reims-Nantes et Rennes-Strasbourg. Enfin, lundi matin à 6h45, on aura droit à un alléchant olympico entre l'Olympique de Marseille, deuxième du classement, et l'Olympique lyonnais, sixième.
Sur la scène européenne, on suivra de belles rencontres, et notamment en Première Ligue.
En Angleterre, effectivement, pendant que Liverpool ira à Bournemouth et que Chelsea recevra West Ham, Arsenal et Manchester City s'affronteront pour tenter de suivre le rythme imposé par les Reds. En Espagne, le Real Madrid sera en Catalogne pour défier l'Espagnol Barcelone, pendant que le Barça recevra Alavés et que l'Atlético de Madrid sera opposé à Majorque. Et puis en Italie, deux chocs à suivre ce week-end. Un derby de Milan entre l'International et les Rossoneri, mais aussi un duel entre l'AS Rome et le Napoli.
Parlons de sport de combat maintenant avec du MMA et deux Français sur la carte principale de l'UFC ce week-end.
C'est le combat qui peut tout changer pour Nassourdine Imavov, auteur d'une magnifique année 2024 avec trois victoires sur des combattants du top 10 dans sa catégorie. Le Français qui combat chez les poids moyens est cinquième. Il affronte une légende du MMA, Israël Adesanya, numéro 2 et ancien champion. En cas de victoire, Nassourdine Imavov pourrait s'offrir un combat pour le titre. De son côté, Fares Yam, qui combat chez les poids légers, lui vise une cinquième victoire consécutive. Il défie l'Américain Mike Davis. L'UFC Fight Night 250, c'est en Arabie Saoudite et ce sera à suivre demain matin pour nous.
Un mot de golf également avec le tournoi Pebble Beach en Californie pour les hommes et l'Hilton Grand Vacation Tournament of Champions.
On retrouve notamment Mathieu Pavon sur l'un des grands tournois de la saison PGA. La deuxième journée est en cours et c'est l'Autrichien Sepp Straka qui est pour l'instant en tête avec une carte de 11 en dessous du par. Après une belle première journée à moins 4, le Français coince légèrement et réalise pour le moment une carte de plus 1 sur cette deuxième journée. Il est 46e à 3 coups en dessous du par. Parmi les images du week-end à retenir à Pebble Beach, on notera ce magnifique 3-1 hier de Rory McIlroy. Chez les dames, maintenant, Céline Boutier, elle est en Floride pour le premier tournoi LPGA de l'année. Seule Française engagée, elle lance plutôt bien sa saison avec une quatrième place lors de la première journée. Elle a réalisé une carte de 2 en dessous du par.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraï, c'est le 99.
Alors Léo, nous avons parlé de golf aux États-Unis. Place maintenant au golf sur le territoire ce week-end.
Et c'est le rendez-vous de ce début d'année à Bouraï, la Ryder Cup d'Eva 2025. Les golfeurs sont réunis depuis hier, une journée d'entraînement d'abord. Les parties entre les broussards et les sudistes démarrent aujourd'hui dès 8h. Elles continueront jusqu'à demain en fin de journée. Les broussards représentent d'un côté les clubs de Deva et de la Wengi. Les sudistes, eux, représentent les clubs de Tina et de Dumbéa.
Enfin, du tennis ce week-end à Nouméa avec le retour des tournois.
Le premier tournoi de l'année, effectivement, c'est le tennis club de l'Est 6e kilomètre qui l'organise, un tournoi multichance de double mixte. Les premiers matchs se joueront dès 8h ce matin. La finale est prévue pour demain après-midi. Notez que le juge arbitre de ce tournoi n'est autre que Olivier Ledain.
Merci Léo Fichou, on passe à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors Nicolas, nous avons parlé météo dans le journal. Est-ce que vous nous confirmez ou pas une dépression tropicale?
Oui, une petite. Hein. Ce matin sur l'ouest, les éclaircies seront larges en début de matinée. Puis des nuages issus de la chaîne s'inviteront progressivement. Sur les autres régions, des averses circuleront dans un ciel nuageux, plus nombreux au Loyauté et sur la pointe sud. Le vent de secteur sud-est sera souvent proche de 20 nœuds, localement encore 20 à 25 nœuds, avec des rafales sur le nord-est. Cet après-midi, sur l'ouest, les débordements nuageux l'emporteront, accompagnés d'averses principalement sur le nord-ouest. Ailleurs, les nuages resteront également majoritaires. Ils donneront des averses fréquentes et parfois modérées au Loyauté. Le vent sera d'est à sud-est autour de 20 nœuds avec des rafales, localement 20 à 25 nœuds sur le sud-ouest et autour de 25 nœuds sur le nord-est. Les températures maximales resteront élevées, de 29 à 30 degrés sur le sud et entre 31 et 33 degrés ailleurs.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. Il est 7h32, c'est la fin de cette édition.